évoquer donc tout d'abord cette recherche, cette actualité de la recherche. Et pour cela, je vais appeler Rémi Genton qui va me rejoindre. Merci de venir sur cette scène, docteur. Vous êtes directeur scientifique à la Fondation Recherche Alzheimer, justement. Et avec vous, on va essayer de mieux comprendre où en est la recherche, cette actualité de la recherche. Quelles étaient, peut-être j'ai envie juste pour lancer cette intervention, de vous demander quels étaient les soucis que connaissait la recherche jusqu'à présent.
C'est déjà la moitié de la présentation, ça, quasiment.
Je vous laisse développer.
Effectivement, je suis très heureux d'abord d'être là, de vous retrouver, enfin de trouver Montpellier et public intéressé, et de partager, j'espère, un message que vous trouverez optimiste. La recherche, c'est long, c'est laborieux, c'est beaucoup de travail et des déceptions, des succès, mais pas à pas, on avance. Et ces dernières années, les choses s'accélèrent, franchement, de mon point de vue, en étant aussi objectif que possible, et j'espère que vous en serez convaincus à l'issue de cette présentation. Alors, c'est une double présentation. D'habitude, on scinde le sujet en deux, actualité de la recherche et diagnostic précoce, et là, c'est mélangé. Alors, je ne sais pas s'il y a du sens pour vous, parce que vous aurez à me subir plus longtemps, mais... de mon point de vue, c'est bien parce que les deux sujets sont intriqués, on fait du en même temps, c'est plus très à la mode aujourd'hui, paraît-il, mais néanmoins, là, c'est approprié, je crois. Donc, on va démarrer. Non, je vais prendre mauvais sens, comme d'habitude, voilà. D'accord, oui.
Vous entendez mieux ?
Alors, le fil conducteur, c'est pas vraiment un plan, mais c'est un fil conducteur. C'était d'où on vient, d'où on partait sur l'Alzheimer, donc hier. Qu'est-ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, et en particulier les trois dernières années? Et puis, qu'est-ce qu'on peut envisager? Comment on voit l'avenir de la maladie d'Alzheimer? Voilà un petit peu les idées. Et encore une fois, j'espère que vous serez convaincus qu'il se passe vraiment des choses et qu'on a bon espoir d'avancer encore davantage. Alors, petite historique rapide avec trois personnages clés. On commence par la gauche, c'est Alois Alzheimer lui-même qui a donc, dont le nom a été donné à la maladie et qui a décrit une femme qui s'appelait Augusta Dieter, qu'il a reçue dans sa clinique hôpital asile à l'époque, en 1900 et des poussières, au début du siècle, du 20e siècle, et qui était atteinte de démence. Hein, démence, c'est perdre l'esprit, donc elle n'avait plus vraiment les capacités cognitives de s'occuper d'elle-même, elle était très dépendante, et il l'a gardée jusqu'à sa mort, quelques années plus tard, et il avait, bien sûr, après son décès, récupéré son cerveau, qu'il a pu examiner. Et vous voyez que par rapport à un cerveau normal, un cerveau normal et un cerveau très atrophique, en particulier cette région-là, qui est la région de la mémoire, et des ventricules élargis, tout ça est vraiment témoigne d'une perte de substance. Mais en regardant de plus près, il a surtout vu des anomalies qu'il a décrites et qu'on appelle dégénérescence neurofibrillaire. Et je vous demande de retenir le mot de protéine tau parce qu'on aura l'occasion d'en reparler. Un autre chercheur important, mais oublié de l'histoire parce qu'il a il est né au mauvais moment et au mauvais lieu, il était autrichien et il a terminé dans un camp d'extermination, hélas. Et lui a décrit des grandes séries de patients qui étaient plus âgés que Mme Augusta Dieter, qui avait 50 ans, ce qui était un petit peu surprenant pour sa maladie. Lui, il a plutôt décrit des patients de plus de 65 ans, 70 ans, qui aussi avaient une démence. Et il a également examiné des séries de patients. L'arrière de leur cerveau, il a vu une autre anomalie, les plaques séniles. Oups, ça commence. Voilà, c'est celle-ci. Et en fait, chacun avait une partie de la vérité de la maladie qu'on appelle maintenant Alzheimer. Quand j'ai commencé médecine, c'était au siècle dernier, j'avoue, on nous parlait de démence sénile, démence pré-sénile. Démence sénile, c'était les vieux qui commençaient à perdre la tête. C'était probablement vasculaire, probablement beaucoup Alzheimer aussi. Mais on appelait ça la démence sénile. Et il y avait les démences pré-séniles, on disait, il y a la maladie d'Alzheimer, ce qui correspondait un peu à la description d'Alois Alzheimer. Il y a la maladie PIC, enfin il y avait un certain nombre de maladies particulières. Mais c'est une scission entre les deux. Peu après, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une seule maladie. Enfin, il y avait des maladies effectivement particulières comme les démences de Pick, etc. Mais que la maladie d'Alzheimer, elle concernait aussi bien avec les mêmes lésions des sujets âgés le plus souvent et parfois des sujets jeunes, comme Madame Dieter, qui avait la particularité d'être en plus très jeune. Donc chacun a une partie de l'hérité, chacun a décrit une partie des lésions, et en fait les deux lésions caractérisent la maladie d'Alzheimer. Ça c'est un neurone, en rose, et vous avez à gauche le corps cellulaire, et vous voyez que ça ressemble à un arbre. Il y a des racines à gauche, qu'on appelle les dendrites, qui reçoivent de l'information d'autres neurones, et qui les véhiculent par ce long tronc, un peu ce tronc comme le tronc d'un arbre, hein, qui s'appelle axone, et qui va le distribuer à d'autres neurones. Donc c'est un canal qui véhicule de l'information. Et c'est le rôle essentiel des neurones que de véhiculer de l'information, de se la transmettre, et de construire des réseaux qui sont le mécanisme par lequel on fait tout ce qu'on a à faire, et notamment, bien sûr, la mémoire, le savoir, les actions qu'on peut conduire, et les décisions qu'on a à prendre. Tout ça, ça se passe par cette cellule magique, et elle entend tout, bien sûr, de cellules de support. En orange, les microglies, qui sont un petit peu les cellules inflammatoires du cerveau, et puis les astrocytes, qui sont un peu des cellules de support, si on schématise. Et sur cette figure, vous avez également les anomalies de la maladie d'Alzheimer, qui sont ici ces fameuses plaques amyloïdes, je vous ai dit plaques séniles amyloïdes, et d'autre part, les dépôts tôt. Les uns, vous le voyez, sont à l'intérieur de la cellule, et vont abîmer de l'intérieur tout ce système de transmission. Les autres, les plaques amyloïdes, vont la grignoter de l'extérieur, et les deux aboutissent à la destruction du neurone, et donc à une perte de substance, et puis la démence quand il y a trop de pertes. Et à la fin du XXe siècle, on a identifié de quoi étaient faites ces plaques. Elles sont faites de protéines. Alors le peptide bêta-amyloïde, en fait, peptide, c'est une petite protéine, plus courte qu'une protéine normale. C'est donc une suite d'acides aminés. Il y en a une quarantaine, en l'occurrence. Protéine tau, c'est une plus longue protéine, suite d'acides aminés. Il y en a il y en a beaucoup plus, il y en a de l'ordre de 260. Et ces deux anomalies, donc, à chacune de ces anomalies correspond un dépôt d'une protéine anormale, peptide bêta-amyloïde ou protéine tau phosphorylée, anormalement phosphorylée. Il s'agit de protéines au départ normales qui subissent une transformation anormale et qui vont avoir la propriété de commencer à s'agglutiner et de donner ces deux anomalies qu'on a vues ici et là, qui sont des paquets, des agrégats anormaux de protéines qui auraient dû être normales mais qui se retrouvent là par erreur. Alors qu'est-ce qu'on sait de cause de la maladie? On n'en sait pas assez, bien sûr. Mais il y a des hypothèses, et puis il y a, en tout cas pour une partie, du mécanisme. Il y a eu deux écoles, ceux qu'on appelait les tauistes et ceux qu'on appelait les baptistes, pour la protéine bêta-amyloïde ou pour la protéine tau. Et ce qui quand même a emporté, c'est un petit peu l'idée qu'au départ, c'est l'amyloïde qui est en cause, la cascade amyloïde. Et ça, c'est sur des arguments génétiques, parce que la génétique joue un rôle important dans la maladie. D'abord, il y a des cas assez rares, heureusement, qui sont des formes purement génétiques, familiales, moins de 1% des cas d'Alzheimer dans le monde. Il y a des clusters, en particulier en Colombie, il y a des familles, beaucoup d'endogamie, et il y a encore aujourd'hui des familles, malheureusement, où il y a énormément de cas d'Alzheimer qui démarrent très tôt, à 40-50 ans, et de façon irrémédiable si on a la malchance de tirer le mauvais gène d'un de ses parents. Mais il existe aussi des facteurs de risque génétique, en particulier un gène ApoE qui intervient sur le mécanisme du lipide. Mais en tout cas, sa forme 4 est nocive, elle augmente le risque de maladie d'Alzheimer. Et toutes ces anomalies, qu'elles soient déterminantes ou qu'elles soient un facteur de risque, influent sur la production de peptides bêta-amyloïdes. D'où l'idée qu'au départ, c'est bien ça qui se passe. Alors qu'est-ce que c'est que cette cascade? Ça a été proposé il y a assez longtemps, c'est de dire qu'au départ, il y a les lésions amyloïdes, qu'elles vont favoriser la production et la diffusion de lésions tau anormales, aboutissant à la mort neurotale, et donc moins de neurones, troubles cognitifs. Alors, ça reste vrai, ça c'est un peu compliqué, et on pense qu'effectivement, les lésions tau sont quand même en cause aussi pour produire elles-mêmes directement des troubles cognitifs, mais que c'est un peu la rencontre de ces deux pathologies qui commencent à des endroits différents du cerveau, et qui fait que la maladie explose. Mais la reste vrai, mort neuronale, trouble cognitif. Et puis on sait aussi qu'au début de la maladie, il y a une inflammation qui va protéger, qui va essayer de lutter contre ces dépôts anormaux, mais qu'après, l'inflammation s'exagère et qu'elle va devenir nocive par elle-même. Donc, De même, la barrière sans cerveau, qui est une espèce de protection du cerveau, qui ne reçoit pas tout ce qui se passe dans le sang, qui reçoit son dont il a besoin, mais pas un certain nombre de bactéries ou de cochonneries qui pourraient traîner, et bien cette barrière va être abîmée. De même, il y a d'autres facteurs qui peuvent en jouer. Bref, les choses ne sont pas si simples, mais quand même, la lésion amyloïde et la cascade amyloïde restent au centre des tentatives thérapeutiques qu'on a pu faire jusque-là. Les maladies évoluent, vous le savez, et en bleu, en violet, vous voyez d'où ça part. Ça part de l'hippocampe. C'est la petite zone en bas du cerveau que je vous ai montré tout à l'heure qui était très atrophique. Cette zone, c'est la zone de la mémoire. Et petit à petit, la pathologie va s'étendre pour gagner peu à peu. Ça, c'est une vue interne, ça, c'est une vue externe. Le cortex. Et à la fin, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de bleu partout. Et puis, ça se traduit par, au début, amnésie. Ensuite, ce que j'ai appelé les astates instrumentales, c'est-à-dire le langage, la reconnaissance visuelle, la coordination des gestes, le fait de prendre des bonnes décisions, ensuite des troubles du comportement, avec l'agitation, l'anxiété, dépression, et à la fin, gravataire et perte complètement de la communication. Donc voilà la progression de proche en proche, avec une petite nuance quand même, c'est qu'effectivement, dans certaines formes, le trouble de la mémoire n'est pas au début, survient ultérieurement et ça commence par des troubles du langage. C'est rare, c'est surtout chez les sujets jeunes, ou des troubles visuels. Et quelquefois, c'est l'ophtalmo qui dit, qui voit un patient qui se plaint de mal voir, ou sa famille, qui dit qu'il voit mal. Et en fait, c'est pas l'œil qui est en cause, c'est ce qui se passe derrière dans le traitement des informations reçues de l'œil vers le cerveau. C'est le cortex occipital qui est alors en cause. Mais c'est des formes plus rares. Dans l'ensemble, début, c'est l'amnésie, vous le savez bien. Alors, comment fait-on le diagnostic ? Alors, au départ, comme je vous l'ai dit, c'était un diagnostic anatomopathologique, c'est-à-dire que c'est à l'examen du cerveau qu'on a découvert ces lésions, et ça restait l'image qu'on avait de cette maladie. Une détérioration cognitive, on ne sait pas trop quoi, mais si on regarde le cerveau, et on le faisait quand on pouvait, on voit ces anomalies caractéristiques. Ce n'est que finalement, beaucoup plus tard, vous voyez que c'est écoulé quand même près de 80 ans, pour qu'on se résolve, que des experts se décident à se réunir en disant « bon, c'est pas tout ça, mais il faudrait quand même avoir des critères, parce que si on veut faire des études qui aient un sens, il faut qu'on soit d'accord sur qu'est-ce qu'on appelle maladie d'Alzheimer. » Donc on a posé des critères. Je vais vous en parler un tout petit peu après. Et puis enfin, heureusement, mais c'est quand même 80 ans après le début de la connaissance de la dénomination de cette maladie, qu'on a avancé avec, en disant qu'il nous faut un diagnostic qui soit à la fois clinique et biologique pour être plus certain du diagnostic. Et là, vous voyez qu'il y a le nom de Bruno Dubois, qui est un de nos fondateurs et qui a largement contribué et initié. Il a été le premier à dire « utilisons des critères clinico-biologiques pour définir cette maladie, sinon on ne s'en sortira pas ». Alors, je vous mets là ces fameux critères cliniques avant l'ère des clinico-biologiques de McCann pour vous montrer qu'effectivement, la maladie d'Alzheimer certaine, c'était si on avait le cerveau qu'on pouvait examiner, donc après le décès du patient. Sinon, le meilleur cas diagnostique, c'était de dire c'est une maladie d'Alzheimer probable parce qu'en effet, il y a une perte cognitive progressive, qu'on a le bon âge et que surtout, on élimine une cause autre, une cause évidente, comme une tumeur, comme une hydrocéphalie à pression normale, comme une pathologie cérébrale évidente à l'imagerie. Donc, dans le diagnostic, de toute façon, il faut faire à un moment ou l'autre un scanner ou une IRM. Et c'est surtout pour éliminer d'autres choses qui seraient curables. Et ça peut donner des indices, parce qu'on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure sur la coupe, c'est-à-dire un cerveau atrophique, avec beaucoup de sillons et des ventricules élargis. Voilà. Et puis cette atrophie spécifique du lobe temporal, qui est ici quand même très atrophique, particulièrement plus que le reste. Mais ces critères purement cliniques, aidés un peu éventuellement d'imagerie, étaient très peu spécifiques. Et 30% des cas conduisaient à un faux négatif. Un faux diagnostic. On avait donc beaucoup de faux positifs, on avait des diagnostics par excès et on incluait sous le nom de maladie d'Alzheimer des patients qui n'avaient pas cela. Et c'est pour progresser qu'on a dû commencer à utiliser les biomarqueurs, d'où les critères biologique, clinico-biologique de la maladie. Alors, qu'est-ce que c'est que ces biomarqueurs ? Donc, c'est faire ce qu'on ne pouvait pas faire sans le cerveau, c'est le faire du vivant du malade grâce à des examens particuliers. Examen particulier, il y a un liquide qui baigne le système nerveux central, qui s'appelle le liquide cérébrospinal ou le liquide céphalo-rachidien. Les deux sont c'est la même chose. Et qu'on peut prélever grâce à une ponction lombaire. C'est un geste qui est assez banal en clinique, qu'on peut faire facilement. Ce n'est pas forcément apprécié, à part qu'il y a une réputation, mais ça se passe très bien. Et là, on recueille du liquide céphalo-rachidien. Comme il est au contact du système nerveux central, on va pouvoir recueillir des substances qui reflètent ce qui se passe au niveau du cerveau et du système nerveux central. Et donc, en effet, on retrouve dans ce liquide céphalo-rachidien des anomalies de la concentration de amyloïdes ou du taux de taux, enfin de la concentration de taux. Et ça permet donc, du vivant du patient, de dire on a bien une maladie d'Alzheimer parce que, en effet, sa bêta-amyloïde dans le liquide cérébrospinal, son taux de taux, sa concentration de taux sont anormaux et c'est en faveur du diagnostic. Ce qui n'empêche pas de dire effectivement on n'a pas d'autres causes, etc. Ce que je vous explique tout à l'heure sur le plan clinique. On a une amnésie progressive, voilà. L'autre, quand on ne peut pas faire une ponction lombaire parce que le malade a trop d'arthrose, parce qu'il y a une contre-indication X ou Y, des anticoagulants, etc., on peut aussi faire le diagnostic en utilisant des isotopes. Isotopes, donc, c'est des substances radioactives. Et on va les fixer, enfin, il y a une technique pour les fixer à des substances qui elles-mêmes vont aller se fixer sur l'amyloïde, sur les plaques amyloïdes, et qui vont donc donner à la caméra à positon, au PET scan, des images de fixation anormale. C'est les zones en rouge ici qui sont. Vous voyez qu'il y a des fixations bien supérieures et ça reflète l'existence de plaques amyloïdes qu'on visualise. Donc une alternative, soit prélèvement de liquide céphalo-rachidien, soit isotope. Aux États-Unis, ils sont très isotopes. En Europe, on est beaucoup plus ponction lombaire et liquide céphalo-rachidien. Et en fait, la recommandation ici en France, c'est effectivement d'essayer de prélever du liquide céphalo-rachidien et seulement en cas de contre-indication d'aller vers une scintigraphie qui est coûteuse et qui donne peu d'informations supplémentaires. Alors c'est une vraie révolution parce qu'elle permet de cibler les bons patients. Alors qu'est-ce que c'est que ces biomarqueurs ? Là je vous le détaille un petit peu. L'idée c'est de dire que quand on a des troubles cognitifs, quand on a une détérioration clinique, cette courbe-là, on a déjà des biomarqueurs qui sont très visibles, très anormaux. En particulier, ce bêta-amyloïde qui paraît le premier à apparaître anormal, qui monte très vite, très tôt dans la maladie, suivi en vert de la concentration de taux dans le liquide céphalo-rachidien, suivi de l'atrophie cérébrale, suivi des troubles cognitifs et enfin de la détérioration générale avec le fait de devenir dépendant et puis gravataire. Et ça, c'est une vraie révolution parce que maintenant, on peut effectivement établir un diagnostic de certitude du vivant du patient. Et ça évite d'inclure dans les études des patients qui n'ont pas la maladie. Et si on donne des traitements très spécifiques ciblant les lésions de l'Alzheimer que les patients n'ont pas l'Alzheimer, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et on dilue complètement l'effet. Si on a 30% de patients qui n'ont pas la maladie, effectivement, l'effet sera plus dur à mettre en évidence. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on inclue ces critères pour inclure les patients dans les essais cliniques. Là, je passe plus tout de suite justement à l'aspect traitement pour revenir au diagnostic. On fait un objet de faire la navette dans ce en même temps dont je vous parlais. Hein. Ça, c'est un très belle image, un peu compliquée, mais ça va être très simple, vous allez voir, qu'un Californien fait tous les ans avec son équipe. Ils font une revue systématique de tous les produits en développement dans la maladie d'Alzheimer. C'est un gros article et qui fait référence à chaque fois parce que c'est un énorme travail qui sert à tout le monde. Et donc vous voyez que c'est une cible. Alors si on regarde les cercles, à l'extérieur vous avez les produits, chaque point c'est un produit en développement, en phase 1, c'est-à-dire les premières administrations chez l'homme, on teste un peu quelle dose on peut utiliser, comment c'est digéré par l'organisme, éliminé, etc. On cherche un peu la sécurité d'emploi avant de la tester. En phase 2, on va la tester chez des malades pour chercher un petit peu si on commence à avoir une petite idée de la dose qui pourrait être active sur le marqueur qu'on veut gérer, sur la pathologie qu'on veut traiter. Et la phase 3, c'est évidemment la preuve du concept, la preuve définitive, le juge de paix, qui va dire oui, ce produit fonctionne ou pas, et on le soumet aux autorités ou pas réglementaires pour l'approbation. Je vais vous parler maintenant des parts de camembert. Alors, le camembert, la part de camembert bleu, c'est les traitements symptomatiques. C'est donc les traitements qui vont chercher à atténuer les troubles neuropsychologiques, c'est-à-dire anxiété, dépression, agitation. Donc vous voyez qu'il y en a pas quelques-uns. Ensuite, on a les traitements qui sont symptomatiques, mais pour améliorer notamment la mémoire. C'est ce qui est sur le marché aujourd'hui, donnézépile, rivastigmine, galantamine, mémantine. C'est des produits symptomatiques, donc ils vont booster un petit peu ce qui existe encore. Ça va améliorer les capacités cognitives un certain temps. C'est efficace, mais moyennement. Il y a des patients qui répondent mieux que d'autres. Et de toute façon, ça n'a qu'un temps, parce que la plupart de ces médicaments, en effet, ils empêchent la dégradation d'un neuromédiateur, l'acétylcholine, qui est réduit chez l'Alzheimer. Et quand il n'y a plus beaucoup de production d'acétylcholine, on a beau éviter cette dégradation, vous comprenez que ça ne peut pas avoir beaucoup, beaucoup d'effets. C'est quand même des produits qui ont leur mérite, et on regrette, toute la communauté regrette qu'ils ne soient plus remboursés en France. Mais c'est comme ça. Ensuite, en vert et en parme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, vous avez les médicaments qui visent non pas à traiter le symptôme, mais à traiter le fond de la maladie, c'est-à-dire à agir sur la maladie de façon à arrêter sa progression. Un antalgique, un traitement de la douleur, c'est un traitement symptomatique. Un anticancéreux, c'est un traitement qui vise à arrêter la maladie. Et là, on cherche à arrêter la maladie, ou en tout cas à la ralentir. Et alors, il y a deux catégories de traitements disease modifiers, de traitements qui vont modifier le cours de la maladie, qui visent à modifier le cours de la maladie. Il y a les traitements qui sont des molécules biochimiques classiques comme paracétamol, enfin des molécules vraiment qu'on synthétise. Et puis, il y a des molécules biologiques qui sont en fait des anticorps monoclonaux fabriqués industriellement, mais qui sont des molécules plus complexes, comme identiques aux anticorps que votre organisme fabrique pour se lutter contre une bactérie. Et vous voyez que c'est tout ce secteur vert qui est assez important avec beaucoup de choses, et c'est là-dessus qu'on va se focaliser, parce que c'est ce qui a le plus avancé et qui donne des vrais espoirs aujourd'hui, mais ça peut changer. En sens qu'on peut trouver d'autres choses. Alors, toute cette aventure des traitements cherchant à modifier l'histoire de la maladie a commencé en l'an 2000, et là on est en 2024, vous voyez que ça a été un quart de siècle pratiquement d'efforts, avec ce qui en pâle, en gros, c'est ce qui a un peu échoué, et puis en plus foncé et encadré de rouge, c'est ce qui a commencé à marcher et ce qui marche même. Alors, les catégories en jaune, c'est les traitements qui visent l'amyloïde, en jaune pâle, c'est les petites molécules, les molécules biochimiques, et en jaune plus foncé, c'est les médicaments biologiques, et c'est ceux qui nous intéressent le plus. Et vous voyez que c'est les médicaments biologiques les plus foncés qui ont donné les meilleurs résultats après quand même pas mal d'années d'efforts. Et en bleu, l'autre partie, les molécules antitaux, les produits antitaux, on est beaucoup moins avancés, mais ça commence, et on espère que ça va certes peut-être être long, mais on arrivera aussi, comme pour l'amyloïde après cette longue histoire, avec peut-être plus d'expérience aussi, donc on aura peut-être plus vite à trouver à prouver leur efficacité et à pouvoir peut-être combiner les deux actions. Alors, pourquoi ça a été si long? Juste une scène un peu compliquée, mais pour vous expliquer qu'en fait, tous ces anticorps dont on parle n'ont pas tous la même cible. D'abord, dans le cadre en haut, vous avez cette fameuse protéine, amyloïde précurseur protéine, qui est la protéine qui va être coupée au mauvais endroit et qui va générer ce résidu bêta-amyloïde qui va avoir la propriété de s'agglutiner en passant par diverses étapes et de fermer à la fin ces plaques en passant par des fibrilles, des protofibrilles, etc. Et les anticorps n'ont pas tous la même affinité. Il y en a qui travaillent plutôt sur la partie où les fibrilles sont uniques, où elles sont solubles, et puis d'autres qui travaillent plus sur les fibrilles déjà un petit peu bien accumulées. Première différence. Deuxième différence, je vous ai parlé d'un peptide, c'est ça, une suite d'acides aminés, là il y en a une quarantaine, et toutes les molécules n'ont pas la même cible sur cette chaîne d'acides aminés. Donc, on a des produits différents, ce qui peut expliquer aussi qu'on a, au début, quelques échecs, parce que peut-être on n'avait pas les bonnes molécules. Donc, première raison, on n'avait pas les bons patients parce qu'on diluait avec des patients qui n'avaient pas l'Alzheimer parce qu'on n'utilisait pas les critères biologiques. Deuxième raison, des molécules différentes, et donc certaines échouent, d'autres fonctionnent. Troisième raison, peut-être, des traitements trop tardifs. Alors, traitement trop tardif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous traitez des patients à ce stade-là et que vous stoppez leur maladie, vous êtes très fier de vous, mais vous laissez un patient quand même qui n'est pas très bien et qui reste pas très bien très longtemps. Si vous arrivez à le traiter à un stade où, ma foi, il a encore beaucoup de capacités intellectuelles, là, vous aurez gagné parce que vous lui permettez de rester longtemps dans un état fort acceptable. D'autre part, comme je l'avais dit tout à l'heure, plus vous avancez dans la maladie, plus vous allez avoir des facteurs autres. L'inflammation, l'anomalie de la barrière sans cerveau, d'autres facteurs qu'on ne connaît pas bien. Tout ça sera plus compliqué à gérer. Alors qu'au début, vous aurez assez pur, de façon assez pure probablement la pathologie amyloïde. Et si vous bloquez cette pathologie, vous allez pouvoir espérer stopper la maladie.
Au regard de ce que vous nous dites, je comprends que le diagnostic précoce, il est d'autant plus important.
Alors tout à fait, on va d'abord dire qu'il est important pour mener les études, mais aussi effectivement dans la vie courante, et la question sera comment on peut gérer ça. En effet, si on arrive à, je reviens en arrière, à déplacer cette zone où on inclut les patients vers une zone de, non pas de démence, mais de troubles cognitifs légers, on va être plus en amont, on sera sur un cerveau moins malade, et ce sera peut-être plus facile et plus utile, surtout, de le maintenir en l'état où il est. Donc l'idée, c'est effectivement de viser plus cette zone à cheval sur démence, mais peu sévère, ou troubles cognitifs légers, pour arriver à attaquer la maladie au bon moment. Donc, attaquer les bons malades, les vrais malades, ceux qui ont vraiment la pathologie d'Alzheimer, au bon moment, et avec les bonnes molécules, c'est quand même les trois piliers, si vous voulez, du progrès qui a pu être fait dans cette lutte. Bon, rapidement, qu'est-ce que c'est que cette immunothérapie amyloïde? Alors, c'est donc ces anticorps de synthèse qui vont aller se fixer sur les plaques, et au lieu d'avoir cette cascade qui se déroule comme on vous l'a montré tout à l'heure, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va couper cette courbe et on espère que donc, en conséquence, toutes les conséquences taux, atrophie, troubles cognitifs vont être en plateau parce qu'il n'y a plus l'alimentation de la pompe, l'alimentation de la cascade. En pratique, comment ça se passe? Parce que comme c'est des molécules biologiques et pas des petites molécules de synthèse, elles ne sont pas avalées, enfin si elles seraient détruites au niveau de l'intestinal, donc on ne peut pas les donner par la bouche, donc c'est à l'intraveineux, et elles vont passer la barrière, rentrer dans le cerveau, aller se fixer sur la plaque, et puis créer localement une réaction de la microglie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont les cellules immunitaires du cerveau, et qui vont aller boulotter la plaque, et voilà ce qu'on espère faire. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. En effet, vous avez trois molécules, là, aducanumab, lecanemab, donanemab, qui réduisent le volume des plaques, le volume des lésions dans le cerveau. Et vous voyez que c'est de façon très spectaculaire en 18 mois. C'est vraiment très constant d'une molécule à l'autre, ce qui montre bien que, franchement, c'est des données tout à fait crédibles. Mais ça, on l'avait montré déjà avec d'autres molécules. Mais ces trois-là, en plus, elles ont le bénéfice qui est attendu, c'est que ça a aussi un effet clinique visible. Cet effet clinique, on l'a montré donc sur la progression des symptômes, et c'est vrai donc pour le lecanemab, le donanemab, avec des résultats assez similaires, on voit qu'en 18 mois, on ralentit de 30% la progression de la maladie. Bon, c'est un résultat qui est quand même une grande, grande, grande étape, parce que combien d'années, vous avez vu, on a passé avant d'arriver enfin à montrer une efficacité qui prouve d'abord que l'hypothèse amyloïde n'était pas idiote, et que deux, on a trouvé un outil pour attaquer ça. Néanmoins, c'est pas encore idéal, parce qu'il y a des effets secondaires sérieux. Ces effets secondaires, ils sont liés à la nature de l'effet du traitement, donc on aura du mal à s'en défaire complètement, parce qu'à partir du moment où vous avez une réaction immunitaire inflammatoire, vous créez un peu d'œdème, vous pouvez créer des petits saignements, Et dans une boîte crânienne qui est d'un volume qui n'est pas extensible, si vous avez un œdème qui va faire enfler le cerveau, si vous avez un saignement, ça va plus ou moins bien se passer. Donc, c'est un souci. Ces complications, c'est de l'œdème, je l'ai dit, qu'on appelle ARIA-E. ARIA, c'est Amyloid-Related Imaging Abnormality, parce que ça se voit à l'IRM. Et H, c'est pour hémorragie. Donc, le plus souvent, elles sont asymptomatiques ou avec des symptômes pas très importants, genre vision trouble, un peu de maux de tête, des petits saignements, mais qui ne sont pas visibles, mais on les voit à l'IRM. Et quelquefois, malheureusement, c'est sérieux. Et il y a eu quand même des événements indésirables graves de l'ordre de 1% dans les essais cliniques.
C'est ce qui fait que c'est accepté aux États-Unis, mais que ce n'est pas accepté chez nous.
Alors, ils avaient le même dossier, mais ils n'ont pas le jugé de la même façon. Effectivement, l'Europe a été, je vais en reparler, mais l'Europe a été beaucoup plus réservée sur l'évaluation du premier dossier qu'elles ont eu à regarder. L'agence européenne a dit le rapport bénéfice-risque ne nous convainc pas. Mais l'histoire n'est pas tout à fait finie. Donc là, vous avez ces complications, avec le fait qu'on a quand même une bonne vision des choses à ne pas faire. Donner avec des anticoagulants, c'est peut-être pas idéal parce que ça risque de saigner. Donner chez des patients qui ont un double gène APOE4, puisqu'on reçoit un gène de chaque parent, c'est pas bon non plus. Malheureusement, ils sont à risque d'Alzheimer, mais ce produit-là ne leur convient pas parce qu'ils saignent plus que les autres, ils ont plus de complications que les autres. S'il y a des histoires de saignement, si le patient a déjà des traces dans ses saignements, il ne faut pas en donner non plus parce qu'ils sont plus à risque. Donc voilà, on peut peu à peu cerner la population qui pourrait en bénéficier sans trop d'effets indésirables, sans trop de risques. Et ça, c'est une piste peut-être que, effectivement, l'indication américaine est très large. Et peut-être que l'Europe pourrait arriver à donner une indication en étant beaucoup plus précis sur les choses à éviter et les patients qui ne devraient pas être exposés à ce type de produit par rapport à ceux qui pourraient en bénéficier, parce que justement, le bénéfice-risque pour eux serait meilleur. Alors, un petit mot sur le bénéfice, justement. La différence est-elle cliniquement pertinente? Alors là, il y a un article qui est sorti en 2022. Une belle revue faite par Nicolas Villain. Et c'est assez sévère parce que leur argument, c'est de dire que... Voilà. Ça, c'est les résultats de chacune des études conduites avec ces produits-là. L'effet observé, c'est les points rouges, avec l'incertitude statistique autour, si vous voulez. Et puis, en faisant une synthèse de tout ça, on arrive à un effet cumulé qui est ici. Or, ce que dit l'article, c'est on voudrait avoir ça. On voudrait avoir ça parce que, a priori, on s'était dit, dans des réunions de comité, etc., on s'était dit, si on n'a pas moins 1 ou moins 2, ce n'est pas vraiment cliniquement pertinent. Et... ça, c'est sur une échelle, sur une autre, bon, c'est pareil. L'idée est la même, mais là, vous voyez qu'on est à cheval sur la courbe de la non-différence, donc c'est pas, a priori, ce n'est pas pertinent. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Je ne sais pas. Enfin, si, je sais, je vais vous expliquer, mais chacun peut juger à sa façon, mais d'abord, cette pertinence de l'effet. Il faut savoir que le CDRSB, c'est une évaluation qui fait intervenir un interview de l'aidant, de la personne la plus proche du malade. C'est donc quand même que si on met en évidence un effet sur une grande population, c'est quand même que les observateurs, ceux qui au quotidien, ont vu quelque chose. Je pense que c'est en faveur quand même d'une efficacité clinique, d'une efficience, d'une réelle efficacité, pas seulement d'une efficacité en chiffres, si vous voulez. C'est quelque chose qui passe dans la vie quotidienne, même si c'est peu important, c'est quand même à noter. Plus important peut-être, des études faites a posteriori. Donc, elles n'avaient pas été faites pour ça, ça ouvre des pistes. Celle-ci dit, observe avec le lecanemab pour des histoires. Voilà, il y avait une étude, l'étude qui a été arrêtée parce qu'elle était finie, ils ont analysé les résultats. Et après, donc il y avait un groupe de gens qui recevaient le placebo, un groupe de patients qui recevaient le traitement actif. En aveugle, hein, voilà. Ça c'est l'étude principale. Après, il y a une rupture de traitement, parce que l'étude était finie, donc le portail m'a arrêté. Et puis quand on s'est aperçu que ce n'était pas si mauvais, on a proposé aux patients, enfin ils ont proposé aux patients, de toute l'étude, de reprendre le traitement actif. Les patients du groupe placebo et les patients du groupe traité. Tous ont repris le traitement. Et ce qui est important de regarder, c'est que si vous comparez l'écart ici entre les deux groupes et l'écart là, il est similaire. Si vous aviez un traitement purement symptomatique ou plus efficace, il y aurait un effet non permanent. Il ne resterait pas. La différence s'atténuerait. Si vous prenez un antalgique, vous le prenez une fois, vous êtes mieux, mieux que le placebo. Vous reprenez le lendemain. Si la personne qui a pris le placebo et vous, vous le prenez ensemble, vous aurez le même effet. Là, vous n'avez pas le même effet, même des années après, des mois après. Ça montre bien, ça avait été proposé il y a quelques années par un des penseurs de la FDA, si on arrive à montrer que l'effet est un des... que les gens qui étaient sous placebo, quand ils prennent le traitement, ne rattrapent jamais les autres, ça montre qu'on a un produit qui modifie fondamentalement la maladie sous-jacente. Et donc là, il y a un petit argument pour dire, c'est bien ce qui se passe. Deuxième argument, c'est avec le produit. Alors là aussi, c'est une modélisation a posteriori, ce n'était pas une étude faite pour démontrer ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc comparé a posteriori le groupe placebo en noir et le groupe traité en vert. Et ils ont divisé le groupe traité entre patients qui commencent tôt, qui ont commencé tôt dans leur histoire de la maladie, parce qu'ils étaient vraiment en groupe comme trouble cognitif léger, ceux qui ont commencé un peu plus tard, un peu plus avancé, avec la protéine taux plus élevée, et d'autres qui étaient vraiment au stade le plus avancé de l'étude. Et on voit que ceux qui ont commencé très tôt ont une courbe, ils descendent beaucoup moins vite que tous les autres. Donc, et à tel point que on a pratiquement 37 mois d'écart, dans le meilleur des cas, entre le groupe placebo et le groupe actif, en sachant que ça, c'est le moment où ils deviennent dépendants. Et donc, on peut retarder, dans le meilleur des cas, de 37 mois l'entrée en dépendance. Vous voyez que c'est quelque chose de très signifiant sur le plan des résultats cliniques. Mais encore une fois, c'est une modélisation a posteriori faite par le labo, donc à prendre avec des pincettes, mais c'est des pistes qui montrent quand même qu'on tient peut-être vraiment des produits qui vont changer les choses. Donc qu'est-ce qu'on sait là? La piste amyloïde a quand même des arguments, enfin elle est en partie confirmée. Les effets sont faibles mais visibles sur une quantité de patients grande traités par ces produits, sur plusieurs critères d'évaluation. On a bon espoir qu'à plus long terme, l'effet soit plus pertinent. On a bon espoir aussi de pouvoir identifier les patients avec une meilleure réponse, c'est les patients qui sont pris le plus tôt dans l'histoire de la maladie. Alors là, on était là avant l'été, et toutes les réunions en France sur la maladie d'Alzheimer, les experts discutaient comment on va mettre en place ce traitement quand il va arriver. Donc il faut s'organiser, parce qu'il faudra faire des perfusions, il faut diagnostiquer les patients, les recevoir, leur expliquer le traitement et ses risques, il faut bien respecter les contre-indications, la durée, ça on en discutera, et bien sûr il faudra mettre en place une surveillance IRM pour dépister à temps les complications de façon à arrêter le traitement si une complication apparaît. On en était là, et puis c'est là ce que vous disiez tout à l'heure, il y a eu cet été la nouvelle que la Commission européenne, enfin l'Agence européenne du médicament, a dit le bénéfice-risque de lecanemab n'est pas suffisant pour qu'on l'accepte. La Grande-Bretagne a dit oui, mais l'évaluation économique en Grande-Bretagne est très importante et l'évaluation économique semble dire qu'ils ne rembourseront pas. Vous voyez que c'est un peu entre deux. États-Unis très promouvant. Quand on écoute les congrès américains en ligne, là, c'est vraiment. Ça rentre dans la pratique. Hein. Ils font le diagnostic et ils y vont. Le point où on en est donc, aducanumab, c'est un produit qui a été enregistré aux États-Unis sur un dossier foireux et ils le savaient et ça a fait un grand débat là-bas. De toute façon, il n'est plus commercialisé. Le laboratoire a acheté des ponches sur ce produit. Les lecanemab, donanemab ont été approuvés aux États-Unis. Les lecanemab a été examiné par l'Europe. Est rejeté, comme je vous le dis, mais il y a un appel en cours, il y a une procédure de recours avec des experts qui vraiment pèsent dans la balance pour dire il nous faut ce produit parce que c'est trop dommage de passer à côté et c'est une perte de chance pour certains patients qui pourraient en bénéficier. Peut-être qu'il faut être prudent, mais on peut trouver la cible, la bonne cible, et là ça vaut la peine. Et donanemab, elle est en cours d'examen à l'Europe, on ne sait pas encore. Le dossier est très proche de l'autre, donc je pense que le sort des deux produits ira dans le même sens pour les deux. Bon ou mauvais, mais j'espère bon. Un petit mot sur le taux.
Rapide, parce que c'est vrai que le temps passe.
Donc, un petit taux, donc c'est le même principe. Simplement, là, la cible, c'est le taux. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'effet très, très clair, très dessiné. Mais encore une fois, ça a été très long pour la milieu. Là, je pense qu'on va aller plus vite. Et on espère qu'on aura aussi cette piste qui va être attaquée et qu'on pourra peut-être choisir quel produit pour quel patient ou mettre les deux ensemble. Il y a un problème de coût, mais ça sera réglé à ce moment-là. Le diagnostic reste encore trop tardif, malgré tout. Vous avez compris qu'il fallait traiter tôt. Aujourd'hui, la situation en France, je vais passer rapidement sur ce diagnostic. L'important, c'est que, alors qu'on était probablement avec un MS de 22 à 30 dans les études, parce qu'on a essayé de traiter justement plus
MMS.
Tôt, dans la réalité, MMS. On est à 17. MMS, c'est le test un peu standard, mini-mental state. C'est un test qu'on fait pratiquer en 10 minutes aux patients pour avoir une idée où il se situe dans ses troubles cognitifs. Ça va jusqu'à 30 et 10, on n'est pas très bien. Voilà. 15, on est moyen.
Donc une personne sur deux seulement diagnostiquée.
Une personne sur deux seulement diagnostiquée, absolument. Et un MS beaucoup trop bas pour vraiment inclure ces patients dans les études. Enfin, pour qu'ils bénéficient du traitement de façon intelligente. Alors, très important, les nouveaux outils diagnostiques, on a des marqueurs sanguins. Ce que je vous ai montré dans la ponction lombaire, maintenant on sait le faire dans une prise de sang. C'est pas encore dans la pratique courante, ça, c'est imminent, ça arrive. Et donc, on a la possibilité de le faire beaucoup plus largement. Et la question se pose, peut-on faire du dépistage ? On a aussi des outils digitaux. Les outils numériques qui font passer des tests de façon plus simple. Les généralistes n'ont pas le temps de faire passer des tests correctement. Ils ne sont pas forcément formés pour ça en plus. Et ils n'ont vraiment pas le temps. Donc, si on peut donner au patient une tablette qui fasse les diagnostics, les tests à la salle d'attente et qu'on le revoit après, ça peut faciliter vraiment les choses. Donc, ces tests numériques, comment on peut les intégrer ? Bon, ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Mais si vous avez une plainte mnésique, vous allez pouvoir aller voir votre généraliste et vous faire passer ce test numérisé, assez bien quantifié, plus peut-être prescrire ses biomarqueurs sanguins, bien sûr prescrire l'IRM, ou bien tout va bien et il reverra le patient tranquillement, il va suivre les choses et voir si ça évolue. Et si le signal est malheureusement négatif, enfin positif mais négatif pour le patient, il l'envoie au centre de mémoire. Là, on fait des tests neuropsy, on fait l'APL ou une scintigraphie, parce que les tests sanguins, peut-être que dans un premier temps, ils serviront de dépistage, mais on ira après un peu plus à fond pour confirmer qu'on est bien dans la vérité. Et on pourra soit proposer un traitement si on en a, soit proposer si finalement les choses ne sont pas confirmées, un renforcement de la prévention. Donc, la question, faut-il encore, à la Coluche, faut-il traiter plus tôt que tôt ? Eh bien, peut-être. On n'a pas encore la preuve, parce que traiter avant les symptômes, bon, ça implique déjà de dépister les patients, mais ça, on pourrait à la limite le faire en se disant à 65 ans, on dépiste tout le monde. C'est peut-être un peu extrémiste, mais ça, la question se pose. Il y a eu des études qui ont été faites, l'une négative, mais peut-être que ce n'était pas la bonne molécule. Le solanezumab, il n'est pas réputé pour marcher dans d'autres circonstances. On traitait des patients qui avaient les marqueurs, mais qui n'étaient pas encore symptomatiques. Et une étude chez les formes génétiques qui est en cours. Je crois qu'on n'a pas encore le résultat et on a espoir quand même qu'on aura un signal positif de ce côté-là. Et la nouvelle frontière, c'est peut-être dépistage, prévention, évaluation du risque individuel. Je voudrais quand même vous montrer cette slide pour vous dire que la maladie d'Alzheimer, il y a une partie génétique, une partie avec des facteurs de risque qu'on dit modifiables. Qu'est-ce que c'est que ces risques ? C'est un très beau schéma qui a été révisé cette année par un groupe de travail qui se réunit régulièrement tous les 4 ans, je crois, pour faire un point sur justement ces facteurs de risque. Si on grossit, c'est tout au cours de la vie, hein. Dans la jeunesse, dans l'enfance, c'est une bonne éducation parce que vous formez beaucoup de connexions synaptiques et c'est important. Après, dans la vie plus avancée, l'âge adulte, perte auditive, c'est un facteur de risque. Cholestérol élevé, c'est un facteur de risque. Dépression, c'est un facteur de risque. Trauma crânien, les enfants doivent mettre des casques quand ils jouent. Quand ils font du vélo. Pas de sport de combat. Bref, pas de tête au football. L'inactivité physique est un facteur de risque. Le diabète, le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'obésité et l'excès d'alcool. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaires parce que si vous conjuguez l'Alzheimer et l'anomalie et les anomalies des vaisseaux abîmés qui apportent peu d'oxygène, peu de glucose au cerveau, ils ne s'en trouvent pas bien. Plus tard, l'isolation sociale, la pollution, la perte visuelle et tout ça, selon ce groupe de travail, c'est 45% du risque de maladie d'Alzheimer. Donc si on les gérait bien, on pourrait peut-être réduire l'incidence de la maladie d'Alzheimer. Et la bonne nouvelle, c'est que dans les pays développés où on traite l'hypertension artérielle beaucoup mieux depuis quelques années, on a vu une réduction par rapport à la croissance anticipée au vu de l'évolution démographique, avec de plus en plus de personnes âgées qui sont, le vieillissement étant le premier facteur de risque. Voilà, donc stimuler son cerveau, faire des choses sympas, se faire plaisir, attention à son alimentation et ne pas se stresser, et puis être vigilant à sa hypertension, son cœur, sa vision, son audition. Voilà. Donc on sait qu'il faut traiter tôt, j'espère vous en avoir convaincu. On a des outils maintenant pour faire un diagnostic tôt avec le sang et avec les tests en ligne. On a confirmé la piste amyloïde, l'enregistrement en Europe, on ne sait pas. C'est grâce au diagnostic plus précoce qu'on a pu faire ces progrès. Il faut continuer la recherche, bien sûr, sur toutes les possibilités d'intervenir, et peut-être qu'il faut envisager la création de cliniques du risque. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est quelques experts qui y pensent sérieusement. Et on peut donner des conseils personnalisés pour protéger son capital cérébral. Et peut-être que si des sujets à risque, c'est-à-dire des sujets qui ne sont pas encore symptomatiques, mais on voit que la maladie débute parce que l'amyloïde commence à monter, peut-être que là, il faut intervenir avec des traitements, mais c'est encore un peu tôt pour le tour. Je vous remercie.
Merci, docteur Janton. Merci beaucoup.